7h48 en ce magnifique lundi matin ensoleillé. Vous êtes à Boulevard 102.1. Max, sur les routes, est-ce qu'il y a quelque chose à signaler? Comment ça roule?
Bien, vous signalez que c'est un autre matin difficile dans le secteur des ponts pour passer de la Rive-Sud à la Rive-Nord, sinon Capitale-Ouest, là, comme pas mal tous les matins, entre Beau-Royal et Laurentienne, c'est tout rouge. Robert-Bourassa Sud vers le boulevard Le Bourgneuf, difficile aussi. Petit ralentissement sur R4 Sud, hauteur Chauveau. En s'en allant vers Shannon, quand même un bon ralentissement qui se fait sentir dans le coin de l'entrée de la base militaire. Laurentienne Sud vers rue de la Faune en raison des travaux qu'il y a depuis un petit bout de temps. C'est encore un matin qui est pas facile.
10 degrés présentement sous le soleil, aucun nuage. C'est la journée qu'on va avoir aujourd'hui et ça va être une journée chaude quand même. 19 le maximum qu'on va atteindre un petit peu plus tard cet après-midi. Il est avec nous en studio, vous l'aimez autant que nous, vulgarisateur d'actualité que vous entendez régulièrement ici à Rage Against le matin et je souhaite que vous suivez sur les réseaux sociaux. Fernel Morissette, bonjour de vote, bon lundi.
Bon lundi, bonjour de vote, en effet.
Et excité qu'on est rendu là dans la campagne électorale?
Ben, ça n'a pas été la campagne électorale la plus excitante, mais pour moi, une journée d'élection, c'est une grande journée. On devrait tous fêter et célébrer le geste civique qu'on va poser aujourd'hui.
On va le souligner ce soir à Boulevard 102.1. Tu vas faire partie de la belle équipe va suivre cette soirée électorale au Canada.
Ça va être excellent, j'ai bien hâte.
Parle-moi tout d'abord, puis on va revenir à la question que tu nous envoyer là, par rapport au droit de vote, un acte de violence, point d'interrogation. Mais juste avant, bel événement samedi soir que tu as animé ici en ville.
Oui, au rue Cartier, deuxième étage du Galway, une espèce de cours public sur la Constitution du Québec, chose qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas que ça existe, mais ça existe. Alors, je remercie tous les gens qui se sont déplacés pour donner leur samedi soir pour assister à un cours là-dessus. J'ai trouvé ça super intéressant.
On apprend quoi quand on va suivre le cours Constitution du Québec de Fernel Morissette?
Ben d'abord, on apprend la Constitution, ça existe, ouais. Que le Québec a une Constitution. On apprend comment elle fonctionne, comment on est arrivé à avoir le gouvernement, comment le gouvernement fonctionne, comment l'État québécois fonctionne, et puis ben, l'ensemble des interactions qu'on peut avoir en tant que citoyen avec la Constitution qui gère l'usage du pouvoir dans nos vies.
La foule, à peu près, parce que je sais qu'il y avait quoi, une trentaine de personnes? Oui. Mais ça ressemble à quoi? Là, hommes, femmes, jeunes, plus âgés?
Assez bien divisé hommes-femmes. Début vingtaine à la fin cinquantaine, je dirais.
Wow.
Ouais, c'est quand même ça. C'était le fun. C'était une belle tranche de la société.
C'est quoi les questions qui sont le plus fréquemment posées? Puis y a-tu quelqu'un qui sort chaud, ben raide de là?
Ah, ben c'est quand même dans un pub.
Drinking game.
Je veux dire, moi, je commence toujours en disant aux gens le plus il boit, le plus moi je me sens confortable parce que parler en public, c'est jamais facile pour qui que ce soit. Généralement, c'est beaucoup des questions à propos de savoir comment ça fonctionne, comment on arrive, comment on choisit un premier ministre, comment le gouvernement arrive à avoir des lois, quelles choses le gouvernement a le droit de faire, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire, qu'est-ce qui arrive si le gouvernement dépasse ses limites. T'sais, c'est le genre de choses qu'on aborde un peu dans ce cours-là.
Venons maintenant à la question que tu nous as envoyée qui a très certainement piqué notre curiosité. Tu nous as envoyé le droit de vote, virgule, un acte de violence, point d'interrogation.
Oui.
Dans quel sens?
Ben, la première chose à dire ici, le mot violence a une connotation très négative, puis les gens vont avoir l'impression qu'on dit ça, on dit que voter c'est mal, parce qu'on sait que la violence c'est mal. Mais je veux prendre un gros pas de recul ici, puis là, je sais qu'il est 7h50 du matin, là, mais on va parler d'un économiste qui est devenu un des premiers sociologues au début du 20e siècle, qui s'appelle Max Weber, qui est arrivé à la définition de c'est quoi un État. Parce que, je veux dire, il faut quand même réaliser, ça n'a pas toujours existé, des États, comme on les comprend aujourd'hui. Et lui est arrivé à la définition qui est qu'un État, essentiellement, c'est un organisme politique qui existe de façon continue et qui est capable d'établir un monopole sur l'usage de la force physique contre les gens sur un territoire. Alors, qui dit usage de la force physique contre les gens? Ben, ça, je veux pas. Un autre mot pour ça, c'est la violence.
C'est vrai.
C'est pas nécessairement quelque chose de mauvais, parce que n'importe quelle société de plus qu'une dizaine peut-être de personnes est pas capable d'agir entièrement de façon de consensus. On n'est pas encore capable de gérer une société de 8 millions de Québécois ou de 30 millions de Canadiens purement par consensus. Alors, à quelque part, il va falloir qu'un groupe de personnes soit contraint à respecter les règles qui sont imposées par un autre groupe de personnes. Comment est-ce qu'on fait ça? Par la contrainte, par la menace d'une contrainte physique. Si tu ne respectes pas les lois, il va y avoir des répercussions de force physique contre toi, de la violence contre toi qui va être imposée par l'État. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va choisir, ça va être qui va avoir le droit d'utiliser cette force physique-là, donc qui va avoir le droit d'utiliser cette violence-là en notre nom pour les prochaines années. On est en train de déléguer le pouvoir de contraindre par la violence aux élus. Et comme je disais, c'est sûr que quand on le dit de même, parce qu'on est tellement habitué à être contre la violence, on veut agir de façon paisible, mais une élection, à quelque part, on pourrait quasiment dire, c'est une guerre civile simulée qu'on fait de façon paisible, qu'on fait de façon respectueuse les uns les autres, mais quand même pour arriver à choisir qui va avoir notre part de la délégation du pouvoir d'appliquer la force physique contre les autres.
Est-ce que ça devient d'autant plus une guerre civile simulée avec les groupes de plus en plus populaires d'extrême droite et d'extrême gauche où deux visions complètement opposées s'affrontent? Puis je pense aux très grandes manifestations là, qu'il y a eu en France notamment.
Bien, tout ce qui est manifestations puis opinions très divergentes, c'est pas nécessairement une mauvaise chose non plus qu'on aille une place à l'intérieur de notre processus démocratique qui se veut toujours paisible pour exprimer ces idées-là. On est en train de vivre une période de perturbation sociale à travers l'Occident pour toutes sortes de raisons, des développements technologiques, des changements économiques, des choses qui sont pas toujours faciles à régler de façon très consensuelle. Alors, c'est normal qu'on se polarise un peu. Ça veut dire que le plus on a des opinions divergentes et différentes, le plus cet acte-là de voter prend tout son sens, parce que ça veut dire, quand on est très en désaccord les uns avec les autres, se soumettre à l'autorité d'un gouvernement central, ça prend encore plus tout son sens, même quand on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'il va décider.
Et si je suis la logique que tu nous expliques là, de là le parti pris de quelqu'un, le parti pris de l'avoir vraiment à cœur, de dire « moi je veux que mon parti passe au pouvoir parce que je veux la gagner, cette guerre civile-là, entre guillemets. »
Ouais, c'est un des dérapages possibles. Je veux dire, moi, je suis aucunement favorable à l'espèce d'hyper-partisanerie de mon parti avant tout, peu importe que je sois d'accord avec ou non. Je pense que c'est important qu'on se retranche pas dans des campements à ce point-là, mais s'il y a des gens qui viennent à voir ce processus-là comme étant vraiment à ce point-là, je dirais, identitaire, quand notre identité vient à former notre vote, ben ça devient facile de tomber dans une partisanerie qui peut être un peu agressive, un peu trop. Alors, c'est important de se rappeler que demain, on va tous faire partie de la même société, même si aujourd'hui, le geste qu'on pose, c'est un geste qu'on devrait faire avec tout le respect pour la chose. Demain, on va tous travailler dans la même société après.
C'est drôle, tu parles, puis on dirait que ma tête fait automatiquement le lien avec les référendums sur la souveraineté du Québec, où c'est encore plus vrai, où là, t'avais deux camps. T'avais le oui, t'avais le non, qui voulait deux choses complètement différentes. Référendum aussi égale genre de guerre civile.
Oui, tout un... À la base, imaginons, on est les premiers êtres humains à se dire, ben là, on a une différence d'opinion à l'intérieur de notre petite société, là. Comment on règle ça? Ben, je veux dire, qu'est-ce qu'on va faire? Si la norme jusqu'à présent, ça va être, ben bon, on va se taper sur la gueule jusqu'à ce que quelqu'un abdique, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder autour, on va dire, ben, qui est de quel bord? Puis c'est un assez bon proxy à savoir, ben, qui va gagner si on se met à se battre. Alors, on peut s'imaginer que les premiers proto-vote, les espèces de premières élections, si on veut, c'était vraiment des gens qui se disaient, ben là, si on vient à se battre, qui va gagner? Là? Puis on est mieux de pas faire ça, alors trouver un autre moyen de le faire.
On est mieux d'écrire sur un petit papier. Est-ce que le comportement de nos élus, que ce soit à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes, où il y a de moins en moins de respect entre eux, crée d'autant plus ce climat de violence civile-là?
Ben, je pense qu'à quelque part, on parlait de l'hyper-partisanerie tantôt. C'est quelque chose que malheureusement, il y a une utilité politique à encourager une vision très partisane, à dire à ces partisans, nous on est les bons et les autres sont les méchants. Il y a un avantage de projeter ça dans les médias, il y a un avantage de projeter ça devant ce qu'on appelle souvent les troupes. T'sais, on utilise beaucoup d'analogies, de terminologie martiale, militaire quand on parle justement de ces choses-là, je pense entre autres pour ces raisons-là. Mais la réalité, c'est qu'on a quand même encore, du moins de ce que moi je peux en constater, une culture très collaborative au niveau des élus eux-mêmes. Alors, il y a comme une espèce de dichotomie bizarre où on a un grand sens de fratrie collectif au niveau des élus, mais ces élus-là, après ça, se tournent de bord et des fois, pas tous, je veux le préciser, mais des fois, il y en a qui ont tendance à essayer de limiter, voire d'empêcher la création d'un espèce de sentiment collectif auprès de leurs propres partisans pour s'assurer qu'eux-mêmes gardent leur part du pouvoir.
Farnell Morissette, tu parles de partisans. Qu'est-ce que tu penses des gens sur les réseaux sociaux en 2025 qui vont essayer avec des commentaires de presque imposer le vote aux autres et même peut-être même traiter d'imbécile si on n'est pas d'accord avec son opinion puis son vote. Qu'est-ce que tu penses de cet exercice-là sur les réseaux sociaux?
Ben, je pense qu'il s'agit surtout de gens qui se sont laissés berner par les tentatives d'une communication hyper partisane, justement, des élus. C'est un peu plate à dire, mais moi, je vois ces gens-là comme des idiots utiles. C'est des gens qui se rendent serviables à une cause en utilisant des moyens qui sont peut-être poussés, encore une fois, par certains politiciens, pas tous. Puis il y a des politiciens qui le font dans toutes les formations politiques. Il y en a d'autres qui ne le font pas dans toutes les formations politiques. Mais les gens qui se laissent berner par ça, ben c'est ça, c'est des gens qui ont été manipulés à faire un travail sale que les élus eux-mêmes ne veulent pas faire directement.
Il y a Joe par texto qui nous envoie une super bonne question et je pense que ça va venir expliquer pourquoi c'est souvent le centre qui va venir l'emporter dans des élections parce qu'il dit « Je me rends compte que lorsque je débat avec mes amis ou avec des personnes, des connaissances et qu'on a des idées complètement opposées, puis là on pourrait mettre droite-gauche, bien c'est souvent l'idée la plus neutre au centre qui devient l'idée la plus sensée. » Ça vient-tu expliquer pourquoi justement c'est des gouvernements plus centristes qui sont élus?
Je pense que c'est un bon signe qu'on parle justement de gens qui se parlent entre eux. C'est une des raisons pourquoi je voulais faire l'événement au Galway, le cours, parce que c'est facile d'avoir des opinions retranchées sur Internet parce qu'on ne voit pas un être humain devant nous, voit un écran. C'est tellement plus important de se parler en personne, puis vraiment en personne. Je comprends qu'on vit dans une réalité hyper connectée par les médias sociaux, digitales, j'en fais partie, mais parler à vos voisins, c'est aujourd'hui, je pense, un des gestes les plus radicaux pour le bien-être de la cohésion sociale. Parler de politique avec vos voisins, avec vos amis, avec votre famille et parler avec des gens qui n'ont pas la même opinion que vous pour réaliser que non, ils ne sont pas tellement éloignés que ça. On se recouvre sur à peu près 80%. On a des petites différences ici de temps en temps sur un 20% qui reste, mais il y a énormément de terrain d'entente, même avec des gens qui ont des opinions très, très différentes et on peut travailler là-dessus. Puis après ça, ben, on réglera les détails plus tard.
C'est essentiel pour une société, je ne me trompe pas, d'avoir ces appels-là, débats ou discussions animées si on n'est pas nécessairement d'accord sur la direction de notre société, mais de l'avoir en personne. C'est important d'en jaser là, en tant que population, en tant que citoyen.
C'est super important et c'est surtout super important d'avoir une culture qui le permet. T'sais, une des choses que je trouve dommage, c'est qu'il y a comme un tabou de parler de politique des fois parce que ça mène des fois à des chicanes. Mais si on peut avoir confiance que les gens avec qui on parle peuvent avoir des désaccords sans tomber dans la chicane, ça permet tellement des bons débats, des bonnes discussions positives dans lesquelles tout le monde s'en ressort mieux connecté au niveau humain, mieux connecté au niveau social, au niveau civil, entre eux. Ça favorise une cohésion sociale, puis ça, on en sort tous gagnants. Rappelez-vous de ça aujourd'hui aussi.
Je bifurque dans un petit sentier, mais qui reste vraiment collé au sujet. Je suis curieux de t'entendre sur le vote stratégique, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de ça présentement. Notamment, j'ai vu un mouvement contre les conservateurs, puis il y a même un site web qui existe où ça dit, selon ta circonscription, pour qui tu devrais voter, qui a le plus de chances de battre les conservateurs. Comment tu vois ça, toi, le vote stratégique?
Je vois ça comme une forme de coordination citoyenne en réponse à peut-être un échec politique. Je pense que si les gens décident
voter
de voter
contre quelque
chose. C'est ça. Dans un monde idéal, on devrait toujours voter pour quelque chose. Mais on a le système électoral qu'on a, qui malheureusement favorise le fait de voter contre. Encore une fois, je reviens un peu aux politiciens qui, eux aussi, des fois, vont mousser certaines émotions. C'est toujours plus facile de motiver quelqu'un contre quelque chose. C'est toujours plus facile de motiver quelqu'un contre une menace que pour un idéal. Alors, je pense que là-dessus aussi, il y a peut-être un peu de ça. C'est un peu des deux. C'est un peu une coordination citoyenne en réponse à une imperfection de notre système électoral et ben, le résultat de justement cette espèce de politique-là qui se veut partisane et, je dirais, identitaire et émotive.
Farnell, je reviens au départ où tu nous parlais que l'acte de voter est un acte de violence et qu'on distribue cette violence-là à une autorité qui va gérer le tout. Est-ce que c'est parce que cette autorité-là use trop de son pouvoir de violence que les tribunaux sont rendus à s'ingérer dans la politique comme on le voit aux États-Unis à l'heure actuelle?
Ben, ce qui se passe aux États-Unis, je pense que ça pas vraiment rapport encore avec ce qui se passe ici. C'est sûr qu'il y a un processus culturel, il y a ce que j'appelle une espèce d'osmose qui se fait avec les États-Unis vers nous. Le recours au judiciaire, généralement, c'est quand le législatif est plus capable de fonctionner, est dysfonctionnel. C'est-à-dire quand les élus sont plus capables de se parler entre eux et arriver à des compromis, ils restent retranchés dans leur camp puis ils renvoient la balle au judiciaire. Puis le judiciaire n'a pas le luxe de pouvoir dire « ben nous, on n'en fait rien » parce que le judiciaire est obligé de trancher. C'est le rôle du judiciaire. Moi, je vois vraiment plus, c'est pas le judiciaire qui s'y mise tant que c'est les élus qui ne font pas bien leur travail. C'est le travail des élus de trouver des compromis, puis ça prend de la bonne foi, de la bonne volonté des deux bords. Quand ça n'existe plus, deux bords aux États-Unis, au Canada, il y a plus que deux bords, on se comprend. Mm-hmm. Quand ça n'existe plus, quand on fait affaire à des camps retranchés qui ne se parlent plus et qui refusent de parler, bien, c'est là que les décisions commencent à appartenir aux tribunaux. Ça politise les tribunaux, ce qui est très mauvais, parce qu'après ça, bien, les tribunaux qui sont supposés être simplement des interprètes impartiaux des lois deviennent des interprètes partisans des lois, et si on ne fait plus confiance aux tribunaux, ben il n'y a plus de recours après ça. Tout ce qui nous reste après ça, c'est justement une perte du monopole de la violence. Il va y avoir des actions plus violentes qu'on ne veut absolument pas. Alors, quand vous allez voter aujourd'hui, rappelez-vous de ça aujourd'hui. Là, on essaye de garder un monopole, de garder tout le contrôle à l'intérieur d'un contrôle démocratique qui nous garde, on l'espère, le plus libre possible.
Encore une fois, une discussion tellement intéressante avec Farnell Morissette. Tu sais que c'est toujours un plaisir quand tu passes nous voir à Rage Against le matin, Farnell. Suivez-le sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Puis on se donne rendez-vous ce soir 20h pour la soirée électorale
à
Boulevard.
J'ai déjà hâte. Ça va être une excellente soirée.
Soyez là tout le monde, que ce soit sur Twitch, que ce soit via l'application leblvd.fm ou l'antenne traditionnelle. Soirée électorale ce soir 20h sur nos ondes avec une motadine de belle gang, je tiens à le dire. Farnell, à ce soir.
À ce soir.
Bonjour de vote.
Merci, vous autres aussi. Merci.